Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Betza, page 10, Daf Yud. Bonne écoute et bon limoud.
La Gemara demande, Mimai, d'où est-ce que tu sais que c'est en fait que c'est une question qui nécessite d'inverser les enseignements de Beit Shammai et de Beit Hillel? Dilma Lohi, peut-être que en fait ce n'est pas une question, parce que jusque-là, nous avons vu l'enseignement de Beit Shammai là-bas, donc dans la première Mishnah de la Maseret, où Beit Shammai était plus coulant et permettait de creuser pour recouvrir le sang. Et la Hecha Deika Dekanaout, il ne permettait que dans un cas où il y avait une pelle qui était plantée dans le sable, dans la terre meuble. Et donc, c'est considéré comme un début de préparation. Et c'est pourquoi cette terre n'est plus considérée comme étant Mouktse. Aval Hecha Deika Dekanaout, l'eau. Par contre, là où il n'y a pas de pelle plantée dans le sable, Beit Shammai ne permettront pas. Là, dans l'autre cas, où cet ustensile est mouxé, parce qu'il sert en général à faire une action interdite le Yom Tov, Beit Shammai interdit de porter un ustensile pareil, même si on veut l'utiliser pour quelque chose de permis. Inami, ou bien, en fait, cette partie de la Gemara vient répondre la contradiction entre les enseignements de Beit Hillel, Adkan Lokam Re Beit Hillel, jusque-là nous avons vu l'enseignement de Beit Hillel qui permettent donc de porter cette planche à découper, Haha Eladeika Torat Kli Alav, seulement dans le cas de notre Mishnah où finalement il s'agit d'un objet qui a la forme d'un ustensile, en fait l'interdiction de le porter, ou à cause de Mouktse, en fait ce n'est pas le Mouktse habituel, mais c'est un Mouktse parce que c'est un ustensile qui sert à quelque chose d'interdit, le Shabbat ou le Yom Tov. Alors, l'avis de Beit Hillel est qu'on peut transporter un ustensile pareil si on veut l'utiliser pour quelque chose de permis. Aval Hatam, mais à propos de la première Mishnah, on parle de porter du sable. L'eau, là, ils ne permettront pas parce que le fait d'avoir planté la pelle n'est pas une préparation suffisante. Donc, ce sable ou cette terre est considéré encore comme étant moukté et donc on ne peut pas le transporter. Et là, c'est pourquoi Ikashia, si tu veux dire qu'il y a une question qui entraîne Rabbi Yochanan à inverser les enseignements de Beit Shammai et de Beit Hillel, Hakashia. Voici la question. C'est une Mishnah plus loin, toujours dans un Fid Aleph. Beit Shammai et Omrim disent En notnim et haor lifne adorsan. Après avoir fait la shrita d'un animal, on ne pourra pas déposer la peau dans un endroit qui sert de passage, ce qui en fait mènerait à commencer à tanner la peau, qui est interdit Yom Tov, on ne peut même pas la transporter cette peau, et là imken yeshalav kezet basar, qu'à condition qu'il y ait une quantité d'un kazaït de viande, et à ce moment-là toute la peau n'est plus considérée comme mukte, ou Beit Hillel Matirim permet. Alma, nous voyons donc que Yom Tov, à propos des décrets de Chachamim qui pourraient entraver la joie de Yom Tov, Beit Shammai, le Khumra, ou Beit Hillel, le Kula, Beit Shammai sont plus stricts et Beit Hillel sont plus coulants. En fait, Beit Hillel permet de déposer la peau dans un endroit qui sert de passage pour qu'une personne ne s'abstienne pas de faire la shrita d'un animal en ayant peur de que la peau s'abîme. Et donc, il viendrait finalement à entraver sa joie de Yom Tov. Veramin hi, et nous voyons une Mishnah qui nous enseigne le contraire, Hashochet Chaya Veov Yom Tov, etc. Une personne qui veut faire la shrita d'un animal sauvage ou d'un oiseau Yom Tov, en Beit Shammai sont plus coulants, ils permettent de creuser avec une pelle pour recouvrir le sang, et Beit Hillel sont plus stricts, ils interdisent de faire la shrita d'un tel animal s'il n'a pas de terre préparée. Nous voyons donc que Beit Shammai est plus coulant et Beit Hillel sont plus stricts. C'est pourquoi l'Agma répond, Amar a dit, Rabbi Yochanan, Mukhlef et Ashita, on inverse l'enseignement de Beit Shammai et de Beit Hillel. Et donc, Beit Shammai permettront de déposer la peau dans un endroit qui sert de passage, et permettront même de porter la peau, même s'il n'y a pas de viande dessus, alors que Beit Hillel interdit. L'Agma demande, Mimai, d'où est-ce que tu le sais, cela? En fait, ce n'est pas une bonne question. Dilma lohi, peut-être en fait ce n'est pas une question parce que on pourrait répondre de cette manière. Adkan nokam re bet shamay. En fait, jusque là nous avons entendu l'enseignement de bet shamay hatam qu'à propos de la personne qui a besoin de creuser pour recouvrir le sang. Et la herhadei kadekanaut bet shamay n'a enseigné cela que dans un cas où il y a une pelle qui est plantée dans le sable. Donc on considère ce sable comme étant plus moukté, parce qu'il y a eu un début de préparation. Aval hechad leka de kernaout, mais par contre, dans le cas où il n'y a pas de pelle plantée, l'eau, bet shamay, ne permettra pas. Là aussi, dans l'autre cas, puisque finalement, cette peau, quand elle était encore sur la bête, était inutilisable, donc finalement, c'est juste après la shrita et avoir dépecé la peau qu'elle devient utilisable. Donc finalement, nous avons un cas de nolad, quelque chose de nouveau qui a été créé pendant Yom Tov. Cela est donc moukté. C'est une explication du Shita Mukubetset. Inami, ou bien, là nous répondu de la contradiction dans l'enseignement de Bet Hillel, Adkan, Lokam, Re Bet Hillel, jusque-là nous avons entendu l'enseignement de Bet Hillel, Haha, qu'à propos d'ici, dans le cas où il voulait déposer la peau devant un endroit de passage, et la déchazé, le misgei lavé, puisque finalement cette peau peut être utilisée telle quelle pour s'asseoir dessus. Bet Hillel ne tient pas qu'il s'agit d'un cas de nolad. Et donc finalement, en la déposant n'importe où, ou bien en la portant, en fait, il porte une espèce de tapis. Donc il n'y a absolument aucun problème de moukté. Aval hatam, mais là-bas où il s'agit de terre, qui elle est moukté, l'eau, là-bas Bet Hillel ne permet pas, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de préparation. Le fait de planter la pelle dans le sable n'est pas considéré comme une préparation suffisante, et donc ce sable est resté moukté. Et là, c'est pourquoi, Ikashia, si tu veux me dire qu'il y a une question pour laquelle Rabbi Yochanan a eu besoin d'inverser les enseignements de Bet Shammai et Bet Hillel, Hakashia, voici quelle était sa question. Nous voyons dans une Mishnah plus loin, Dafi Yudalef Amud Bet, Bet Shammai et Omrim disent, En Mesalkin et Atrisin Be Yom Tov. Même si on a le droit d'acheter des épices de Yom Tov sous certaines conditions, notamment chez un épicier qui nous fait confiance, il ne pourra pas quand même démonter les volets de son kiosque ou de son magasin qui servait à l'effroi d'étalage, et cela pendant Yom Tov. Ou Bet Hillel Matirim Aflarzir, ou Bet Hillel permettre même de refermer ces volets après avoir pris ce qu'on avait besoin. Alma, on va donc de là, Gabe Simchat Yom Tov, à propos des lois pouvant entraver la joie de Yom Tov, Bet Shammai le Chumra ou Bet Hillel le Kula, Bet Shammai est plus strict, et Bet Hillel est plus coulant, Vramin Hi, et on voit une Mishnah qui nous enseigne le contraire, au début de la Masechet, Hashochet, Hayav, Ovu, Yom Tov, Bechule, celui qui veut faire la shrita d'un animal sauvage, d'un oiseau, le Yom Tov, et donc doit recouvrir le sang de cet animal. Bet Shammai permet de creuser dans la terre pour recouvrir le sang. Nous voyons donc que Bet Shammai est plus coulant. Par contre, Bet Hillel interdit de faire la shrita d'un tel animal s'il n'a pas de terre prête, prévu pour cet effet. Donc Bet Hillel est plus strict. Bishlama Bet Shammai a Bet Shammai lo kashia. Encore, on peut comprendre qu'entre les enseignements de Bet Shammai, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que Hatam Dekar de Kanaout, dans la première Mishnah, il s'agit dans un cas où il y a une pelle plantée dans la terre. Donc cette terre est considérée comme étant prête selon l'avis de Bet Shammai. Et donc elle n'est plus moukté. Haha, l'écart des Kanaout. Par contre ici, il n'y a pas de pelle plantée. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de permettre, parce qu'on n'a pas le droit de monter ou démonter des ustensiles pendant Shabbat ou Yom Tov, selon l'avis de Bet Shammai. Et là, Bet Hillel, à Bet Hillel, Kashia. Par contre, il y a une contradiction entre les deux avis de Bet Hillel. C'est pourquoi l'Agma répond, Amar a dit, Rabbi Yochanan, Mukhlefet Hashita. On inverse les enseignements de Bet Shammai et de Bet Hillel, et c'est à ce moment-là, selon Bet Hillel, on n'aura pas le droit de démonter ou de remonter les volets d'un kiosque ou d'un magasin, alors que selon Bet Shammai, on aura le droit. Alors l'Agma réplique, il faut lire ici, Dilma Lohi, peut-être en fait, ce n'est pas une question, parce que Adkan Lokam Bet Hillel Haha, jusqu'ici nous n'avons entendu l'enseignement de Bet Hillel, qu'ici, où ils sont plus coulants. Pourquoi? Parce que Ela Mishum de En Binyan Bekelim, Ben Stira Bekelim, parce qu'en fait, Bet Hillel tient qu'il n'y a aucune interdiction de construire des ustensiles ou de détruire des ustensiles pendant Shabbat ou Yom Tov. Il n'y a pas l'interdiction de binyan, qui veut dire construire ou de détruire. Et c'est pourquoi, pour la joie de Yom Tov, ils permettent donc de démonter les volets d'un magasin et de les remonter. Aval Hatam, mais à propos de recouvrir le sang avec du sable, où il y a un problème de moukté et le fait d'avoir planté la pelle dans le sable n'est pas considéré comme étant une préparation suffisante. Donc là, c'est pourquoi Lo Bet Hillel ne permettront pas. Nouvelle Mishnah. Bet Shammai Omrim disent Lo Itol Elaim Ken Yenea Mibodium. Il ne pourra pas prendre des pigeons d'un pigeonnier qu'à condition de les avoir secoués avant Yom Tov, c'est-à-dire de les avoir pris dans les mains en décidant que voilà, c'est cela qu'il utilisera pendant Yom Tov. Bet Hillel Omrim disent Omed Veomer Zeveze Aninotel. Il suffit de se tenir debout à côté du pigeonnier et de dire, en montrant du doigt, voilà, cet oiseau et celui-là, je prendrai pendant Yom Tov. Il n'a pas besoin de les prendre dans les mains. Amar Adi, Rav Hanan Bar Ami, Machloket Bevrecha Rishona. La discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel n'est que dans le cas d'une première couvée où les éleveurs, en général, ont l'habitude de laisser la première couvée de chaque année pour encourager les pigeons à revenir dans leur pigeonnier. Alors, des Bet Shammai Savrei pensent Gazrin Andilma Terim Luché, on décrète d'interdire de prendre ces pigeons seulement qu'à condition de les avoir secoués dans les mains, de peur qu'ils viennent à changer d'avis, et donc finalement, il viendra à prendre des oiseaux qui sont donc théoriquement n'étaient plus mouktés, mais s'ils changent d'avis, ils redeviennent mouktés. Et puisqu'il s'agit ici de la première couvée, donc on craint qu'il change d'avis. Ou Bet Hillel Savrei pense, Logazrinan, on ne craint pas qu'il change d'avis, une fois qu'il a décidé de le prendre, c'est une décision finale. Aval Bebrechashnia, mais s'il s'agit d'une deuxième couvée, ou bien une autre couvée, Divrakol, Bomet, Bomer, Zevezan, Inotel, Sagia. Tout le monde est d'accord qu'il suffit de se tenir debout à côté du pigeonnier, et en désignant les oiseaux en question, il dira, voilà, celui-là et cet oiseau, je prendrai pendant Yom Tov, il n'a pas besoin de les prendre dans les mains. La Gemara demande au Bet Hillel, selon l'avis de Bet Hillel, l'amal et l'ememar, zevezani notel. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de préciser les oiseaux en disant voilà, celui-là et celui-là, je prendrai demain? Et ce n'est qu'à ce moment-là que cet oiseau n'est plus moukté. Lema, il n'a qu'à dire mikan ani notel lemacha. Il n'a qu'à dire voilà, je prendrai de ce pigeonnier demain. Et puis demain, le lendemain, quand il prendra des pigeons, on dira qu'il s'avère que c'est en fait, c'est à ces pigeons qu'il faisait allusion la veille. Donc en fait, il s'agit ici d'employer le principe de Brera, c'est-à-dire de faire une action, c'est le principe de faire une action qui n'est pas définie maintenant, mais dont la nature sera déterminée par la suite. Berhitema, si tu veux me dire que Bet Hillel l'étle au Brera, en fait Bet Hillel ne tient pas compte du principe de Brera, et c'est pourquoi donc il doit préciser les oiseaux qu'il voudra utiliser demain. C'est pas vrai, parce que nous voyons dans ce Mishnah, dans Maseret Ohalot, que Bet Hillel est d'accord avec le principe de Brera, selon lequel une chose peut être définie même après coup. Moudalef a 8 lignes du bas de la page. Nous avons vu dans la Mishnah que l'avis de Bet Hillel était que si on voulait utiliser des pigeons d'un pigeonnier, il fallait se tenir debout, il suffisait de se tenir debout à côté du pigeonnier et de dire voilà, ce pigeon et celui-là, je prendrai. La Gemara a demandé pourquoi elle avait besoin de désigner les pigeons du doigt, pourquoi il ne suffisait pas de dire, voilà, de ce pigeonnier je me servirai. Et à ce moment-là, on se servirait du principe de Brera, qui est le principe de définir une action ou une chose après coup. Là aussi, nous dirons que le lendemain, quand il prendra des pigeons, nous dirons que c'est à ces pigeons qu'il a fait allusion la veille. Alors la Gemara a demandé, et si tu veux me dire que Bet Hillel ne sont pas d'accord avec le principe de Brera, Be'atnan, voici que nous voyons dans une Mishnah dans Ohalot qui parle de la Tumat Met, qui est le fait que s'il y a un mort dans une pièce ou sous un toit, tout ce qui est sous le même toit devient impur. La Mishnah dit Hamet Babait, s'il y a un mort dans une maison, dans une pièce, Velop Tachim Arbe, il y a plusieurs portes qui permettent de sortir de cette pièce. Kulam Tmeim, tous les ustensiles se trouvant sous le linteau de ces portes, même si les portes sont fermées, donc il n'y a aucun. La Touma théoriquement ne pourrait pas passer quand même. Kulam Tmeim. Tous les ustensiles que donc toutes les portes sont impures et tous les ustensiles se trouvant en dessous deviennent aussi impurs. Le Simchat Yom Tov explique que la source de cette halakha et du fait qu'il y a une halakha, le Moshe Misinaï, comme Rashi plus loin explique Daf Lametret, que partout où toute porte par laquelle le mort passera deviendra impure et les ustensiles étant sous le linteau de cette porte deviendront impurs. Là, dans notre cas où il y a plusieurs portes, théoriquement, Minatora, il ne devrait pas avoir d'impureté, parce que c'est juste dans un cas de certitude que cette impureté, que cette halakha existe. Mais les Chachamim ont décrété de rendre impures toutes les portes, parce que chacune d'elles, finalement, peut servir de sortie pour ce mort. Niftach Echad Mehem, si une de ces portes s'ouvre, Hutame, en nous disant que cette porte est impure, donc les ustensiles étant sous ce linteau sont impurs, Vekulam Teorim, et tout le reste des portes sont purs, et donc les ustensiles étant sous les linteaux de ces portes aussi sont purs. Chashav lotzi obechad nehem, s'il a décidé de sortir le mort par une des portes, mais sans l'ouvrir, obechalon sheshba arba al arba, ou bien s'il a décidé de faire sortir le mort par une fenêtre qui a les dimensions de 4 tfachim sur 4 tfachim, qui est la dimension minimum pour pouvoir faire sortir un mort, Matzelet al kol aptachim kulam, cette décision sauve le statut des autres portes. En d'autres termes, la porte donc par laquelle il a décidé de faire sortir le mort deviendra impure, les ustensiles qui sont en dessous du linteau deviendront impurs ou sont impurs, par contre les ustensiles qui sont sous les autres portes restent purs. Alors Bet Shammai Omrim disent Vehu shechashav lotzio ad shelo yamutamet, pour que cette décision prenne effet il faut qu'il ait pris cette décision avant que la personne meurt, ou Bet Hillel Omrim disent Af Mishé Amutamet, il peut prendre cette décision même après que cette personne meurt. La Gemara comprend ici que la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel est un problème de Brera, et en fait tous les deux sont d'accord que les ustensiles placés sous le linteau des portes en question après la décision ou après que la porte soit ouverte, alors tout le monde est d'accord que c'est les autres portes sont pures. Et le problème est-ce que cette décision peut être prise rétroactivement? Alors selon l'avis de Bet Shammai, qui ne tiennent pas du principe de Brera, selon cette interprétation, donc disent que cette décision peut être prise qu'avant que la personne meure. Par contre, si cette décision est prise plus tard, alors les portes ne deviendront pas pures rétroactivement. Et à ce moment-là, c'est qu'à partir du moment de la décision que les autres portes sont pures, mais avant, tous les ustensiles qui étaient sous les linteaux avant cette décision ou avant que la porte s'ouvre restent impurs. Par contre, selon l'avis de Bet Hillel, cette décision peut être prise même après que la personne meurt, et cela prendra effet même rétroactivement, et tous les ustensiles qui étaient sous les autres portes deviendront rétroactivement purs. Et cela parce que nous avons expliqué plus haut dans la Mishnah qu'ici c'est un problème de Rabbanan, c'est un décret, c'est pourquoi le principe de Brera marche. Alors que s'il s'agissait d'un problème Minatora, même tout le monde est d'accord que le principe de Brera ne marche pas. Donc finalement nous ne comprenons pas pourquoi il faut désigner les pigeons du doigt. Lagma répond Haït Marala. Voici que il a été dit à propos de cette Mishnah, donc pour interpréter cette Mishnah, Amar a dit Rabba. La discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel n'est pas pour rendre pures les portes rétroactivement, mais la discussion est pour rendre pures les portes à partir du moment de la décision. Et en fait, tout le monde est d'accord que si on ouvre la porte, les autres portes deviendront pures, parce qu'il est évident, on sera certain que c'est par cette porte qu'on fera sortir le mort. Par contre, la discussion est à propos d'une décision de faire sortir le mort par une des portes. Alors selon Bet Hillel, même si l'impureté a pris effet, on pourra quand même décider avec une pensée de faire sortir le mort par une porte, et cette décision prendra effet, et à partir de ce moment-là, les autres portes seront pures. Selon l'avis de Bet Shammai, cette décision ne pourra pas prendre effet, parce qu'une fois que l'impureté a déjà pris effet, il faudra une action pour annuler cette impureté. C'est pourquoi c'est juste quand on ouvre la porte que l'impureté prend fin, contraintes sur les autres portes. Par contre, la décision ne suffit pas pour changer le statut des portes. V'chen, Amar, et ainsi a dit Rabbi Hoshaya, l'Eteret Abtachim Kanou là-bas. La discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel est, comme nous l'avons expliqué, à propos de rendre pures les portes à partir du moment de la décision. Mais en tout cas, ici, ce n'est pas du tout un problème de Brera. Nous pourrons toujours dire que Beit Hillel ne sont pas d'accord avec le principe de Brera. Mikan ou Lahabain. Donc nous voyons que même Beit Hillel, quand il parle juste de rendre pure les autres portes à partir du moment de la décision, le mafré à l'eau, mais personne ne parle de rendre pures les portes rétroactivement. Rava Amar dit, Leolam le mafréa. Toujours pourrais-je te dire que l'interprétation de la Mishnah est comme nous la comprenons, c'est-à-dire qu'en fait, la discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel se rapporte à savoir si les autres portes pourront devenir pures rétroactivement, à la suite d'une décision ou à la suite de l'ouverture de la porte. Même comme ça, il n'y a pas de question à propos de notre Mishnah. Pourquoi ? Behacha haynu tama. Ici, c'est la raison pourquoi il faut désigner les pigeons du doigt. On ne pourra pas dire, voilà, de ce pigeonnier, je vais me servir, sans désigner les pigeons. Dilma metaltel veshavik, metaltel veshavik. Parce que s'il peut choisir entre les différents pigeons de ce pigeonnier, donc il risque de prendre un pigeon et de le déposer, prendre un deuxième et de le déposer. Beka metaltel mide de lochazele. Et finalement, il se trouve qu'il a porté ou transporté quelque chose qu'il ne veut pas utiliser. Il se trouve donc que les pigeons transportés en premier sont mouktés, parce qu'en fait il s'avère rétroactivement que ce n'est pas sur ces pigeons qu'il a eu l'intention d'utiliser, et c'est d'autres pigeons qu'il a voulu utiliser. C'est pourquoi Beit Hillel nécessite de désigner les pigeons du doigt. La Gemara demande, Veha Amart Beomed Beomer Ze Veze Aninotel Sagia. Voici que tu as dit qu'en se tenant debout à côté du pigeonnier en disant, voilà, celui-là et celui-là, je prendrai, cela suffit. Et en fait, il ne les a pas touchés. Et il se peut qu'en fait, il change d'avis, il risque de trouver qu'ils sont trop maigres et vouloir choisir d'autres pigeons. Donc finalement, nous nous retrouvons avec le même problème. La Gemara répond, Han Emile Merevium Top. Quand est-ce qu'on dit qu'il suffit de se tenir et de désigner les pigeons du doigt sans les toucher ? N'est que Erev Yom Tov, parce qu'une fois qu'il a décidé spécifiquement quel pigeon il utilisera, il sait bien que les autres sont mouktés, donc il ne pourra pas changer d'avis. Nous tournons la page à Daf Yud Amud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Yud Amud Bet. Aval Beyom Tov, Assur. Mais pendant Yom Tov, il ne pourra pas choisir quel pigeon il veut utiliser. Pourquoi ? Des énigmes, des Mishta Kreshmenim Krushim. Parce qu'il se peut qu'il découvre que les pigeons qu'il croyait étant gros, il se trouve qu'ils soient maigres. Par exemple, ils ont beaucoup de plumages. Ou veut Krushim Shmenim. Il peut s'avérer aussi que ceux qu'il pensait qu'ils étaient maigres, en fait, ils sont plus gros. Et finalement, avec Kametaltel Mide de Lochazele, finalement, il se trouve qu'il transporte quelque chose qu'il ne veut pas utiliser, donc qui est resté moukté. Le principe de Brera ne marche pas, au contraire, il s'avère que ces pigeons étaient déjà depuis le départ mouktés parce qu'il s'avère qu'ils ne voulaient pas du tout les utiliser. Inami, deuxième possibilité, Zinlim de Mishtak Rekul Krushim. Il se peut qu'il découvre que finalement tous les pigeons sont maigres, Veshavik Leou, et il les laissera et ne voudra pas les utiliser. Veatelim Noué Mesimchat Yom Tov, ce qui viendra donc à entraver la joie de Yom Tov. Parce que finalement il se trouve avec aucun pigeon qu'il puisse manger, alors que quand on lui dit de préparer les pigeons avant Yom Tov, donc s'il voit que certains pigeons sont plus maigres, ou tous les pigeons sont trop maigres, alors finalement il essaiera d'en trouver d'autres. C'est pourquoi donc il est obligé, on lui demande de préparer les pigeons avant Yom Tov et de les désigner, comme ça il sait que c'est ça qu'il mangera pendant Yom Tov. Nouvelle Mishnah. Zimen Shchorim, s'il a désigné des pigeons noirs dont il se servira à Yom Tov, ou Matzah Levanim, il a trouvé à leur place des pigeons blancs. Levanim ou Matzah Shchorim, s'il a désigné des pigeons blancs, il a trouvé à leur place des pigeons noirs. Donc en fait, nous pouvons estimer que les pigeons qu'il a préparés ne sont plus là. Ou bien, Shnaim ou Matzah Shlosha, s'il a désigné deux pigeons et en a trouvé trois dans le même nid. Asurim, il ne pourra pas les utiliser, parce qu'on les considère comme étant moukté. Peut-être ce n'est plus ce qu'il n'a préparé, ou bien dans le dernier cas, il y a un pigeon en plus dont il ne sait pas lequel est en plus. Donc c'est pourquoi il ne pourra en utiliser aucun. Par contre, Shlosha ou Matashnaim, s'il a désigné trois pigeons et on a trouvé que deux dans ce nid, Mutarim, il pourra les utiliser. Ils ne seront pas considérés mouksés. On nous dira que un a quitté le nid, mais les deux autres sont encore restés. Betor Haken ou Matsalifnaken, s'il a désigné des pigeons dans le nid, donc un des compartiments du pigeonnier, et les a trouvés à l'extérieur du nid, Asourim. Nous dirons que ces pigeons sont interdits. Peut-être que ceux qui étaient dans le nid ont quitté le nid. Et ceux-là, ceux qui sont à l'extérieur, sont d'autres pigeons qui sont venus de l'extérieur. Bi'imen sham elahem, s'il n'y a que ces pigeons dans le voisinage, donc il n'y a pas de possibilité que ce soit des pigeons venus d'ailleurs, harel ou mutarim, alors ces pigeons seront permis. Et nous dirons que ce sont les pigeons qui sont venus de l'intérieur du nid. Alors l'Agmara reprend le passage de la Mishnah qui parle, donc le premier cas, qui parle d'un cas où il a désigné des pigeons noirs et on a trouvé des blancs, ou vice-versa. Alors, la Mishnah nous a enseigné que ces pigeons étaient interdits. Alors, l'Agmara demande, Pshita, il est évident que ces pigeons sont interdits, parce que ce n'est pas ce qu'il a prévu. L'Agmara répond, Amar a dit, Rabba, Hacha b'maskinan, il s'agit dans un cas où Kegon Shezimen Shchorim Ulvanim, en fait il avait désigné des pigeons noirs et des pigeons blancs. Vehishkim Umatsa Shchorim Bemakom Levanim, quand il s'est levé le matin, il a trouvé les noirs à l'emplacement où il avait prévu les blancs, Ulvanim Bemakom Shchorim, et a trouvé les pigeons blancs à l'emplacement où il avait désigné les noirs. Maoud et Tema, j'aurais pu croire que Hane Inhuninu, en fait c'est le même pigeon qu'il avait prévu avant Yom Tov, Vitapur et Tapur. Et en fait, ils ont changé de place, ils ont changé de nid. Kamash Malam, c'est pourquoi la Mishnah nous enseigne que c'est interdit. En fait, nous craignons que Hanar Azdul Alma, les pigeons qu'il a prévus, ont quitté le nid et sont partis, se sont envolés. Behane Achine Ninhu, et les pigeons qu'il voit maintenant sont en fait d'autres pigeons venus d'ailleurs. C'est pourquoi ils sont considérés donc comme étant mouksés. Lema Mesayale, les Rabbi Hanina. Peut-être que cette Mishnah est une preuve pour l'enseignement de Rabbi Hanina. Dehamar, parce qu'a dit Rabbi Hanina. En fait, quand nous avons un doute à propos de la nature d'un objet, par exemple, mettons de la viande qu'on trouve dans le marché, nous ne savons pas si cette viande est cachée ou non, nous avons deux possibilités de déterminer la nature de cette viande. Ou bien nous pouvons déterminer la nature de cette viande en se référant au magasin avoisinant, c'est ce qu'on appelle Karov. Si nous voyons que les magasins avoisinants vendent uniquement de la viande cachère, nous dirons que cette viande est cachère. Sinon, nous dirons que cette viande n'est pas cachère. Nous avons une deuxième possibilité de déterminer la nature de cette viande par rapport à la majorité, le rov. Si la majorité de la viande vendue dans la ville est de la viande cachère, nous dirons que cette viande est cachère. Si tel n'est pas le cas, la viande sera taref. Maintenant, Rabbi Hanina nous enseigne que rov vekarov, si pour déterminer la nature d'une chose, nous avons une contradiction entre la majorité et les choses avoisinantes. Donc, par exemple, dans le cas de la viande, si par exemple la majorité de la viande vendue dans la ville est cachère, et par contre, les magasins à proximité de cette viande vendent de la viande taref. Donc nous avons une contradiction entre ces deux principes, de rov et de karov. Alors Rabbi Hanina nous enseigne que halach ha-harov, c'est la majorité qui l'emporte, et c'est donc selon la majorité que sera déterminer la nature de cette chose ou de la viande, par exemple dans le cas que nous venons de dire. Donc là aussi nous voyons dans la Mishnah où finalement nous avons deux possibilités de déterminer la nature des pigeons en question, ou bien nous irons d'après les pigeons qui sont à proximité et donc nous dirons que les pigeons à proximité ne sont pas mouktés. Par contre, nous avons aussi une autre possibilité de déterminer la nature des pigeons par rapport à la majorité des pigeons qu'il y a dans le monde ou dans la ville, et ceux-là sont mouktés. Donc là, nous voyons dans la Mishnah que c'est la majorité qui l'emporte, et donc nous disons que les pigeons sont mouktés, même que nous aurions pu dire que les pigeons à proximité ne sont pas mouktés. Agmara dit, Kedéamar Abaye. En fait, nous n'avons pas de preuve parce que nous pourrions interpréter cette Mishnah comme interpréter Abaye la fin de la Mishnah, c'est-à-dire Bedaf, s'il s'agit où il y a une espèce de planche, une espèce de balcon qui dépasse du pigeonnier, où là donc les pigeons venus de l'extérieur ont l'habitude de se reposer. Et donc, dans ce cas, Hachanami Bedaf, là aussi nous interpréterons notre Mishnah dans le cas où il y a une espèce de planche qui dépasse du pigeonnier. Et à ce moment-là, soit les pigeons appartenant au pigeonnier, soit les pigeons venus de l'extérieur sont considérés comme étant proches des pigeons à propos desquels nous avons un doute. Et puisque la majorité des pigeons venus de l'extérieur sont mouktés, donc là, il n'y a plus de contradiction entre le karov et le karov, puisque les deux sortes de pigeons sont proches, et donc c'est la majorité qui l'emporte automatiquement. L'Agmar reprend le passage de la Mishnah qui dit « Shnaim umatsa shlosha asurim ». S'il a désigné deux pigeons et en trouve trois dans le même nid, alors tous les pigeons sont interdits. L'Agmar explique « Manafshar ». Qu'est-ce que tu veux dire? En d'autres termes, de toute façon, n'importe quel raisonnement que tu puisses dire nous entraînera à dire que ces pigeons sont interdits. « Iachar nianinhu » Si tu diras que les deux pigeons qu'il y avait au départ dans le nid ont quitté le nid et ce sont trois autres. « Ha'achar nianinhu » Donc finalement, puisque ce sont des autres pigeons, c'est sûr que nous dirons qu'ils sont mouktés. « Ve'ilohachar nianinhu » Même si tu me dis que ce n'est pas des autres pigeons, les deux pigeons qu'il y avait au départ sont restés dans le nid. « Ha'ikachad » Mais puisqu'il est évident, nous sommes certains qu'il y a un pigeon qui est venu de l'extérieur, et finalement il s'est mêlé à ces deux autres pigeons, on ne pourra consommer aucun des pigeons. Shlosha umatashnaim mutarim. S'il a désigné trois pigeons et en trouve deux dans le même nid, en là nous dirons que ces pigeons sont permis. Maitama, pourquoi? Hane inhuninhu, ces deux pigeons, ce sont les mêmes pigeons qui ont été désignés avant Yom Tov. Vechad minayu azale alma. Et nous dirons que c'est un des trois pigeons qui a quitté le nid et s'est envolé. La Gemara demande « Lema matnitin rebihi velo rabanan » Est-ce que nous dirons que l'auteur de cette Mishnah est Rebi et non pas les Rabanan qui discutent avec lui? D'Etania. Parce que nous voyons une braïta à propos de l'argent de Maaser Sheni. Alors la braïta nous enseigne « Hini achmane » S'il a déposé dans un endroit une pièce d'un mané qui appartenait au Maaser Sheni. C'est de l'argent qui a servi à racheter des fruits provenant de la. Étant Maaser Sheni, cet argent devait être monté à Yerushalayim et là-bas on achetait des fruits et on les consommait dans la ville même de Yerushalayim. En tout cas, donc s'il a déposé une pièce d'amané dans un endroit, ou Matsamataim, il a trouvé dans le même endroit deux pièces d'amané, donc il ne sait plus laquelle est Maaser Sheni, ou s'il y en a, ou bien si, peut-être que nous pouvons dire que cette pièce de Maaser Sheni a été enlevée de cet endroit et c'est de nouvelles pièces. Alors, Chulin ou Maaser Sheni Mouravim Zebazé, Divrei Rebi. Selon les paroles de Rebi, nous estimons que c'est une pièce est considérée comme Maaser Sheni, la deuxième n'appartient pas au Maaser Sheni, elle appartient au Chulin. Et donc, nous disons qu'une pièce de Maaser Sheni et une pièce de Chulin sont mélangées. Donc, il devra choisir une des pièces et dire, bon, si cette pièce appartient au Maaser Sheni, c'est bien. Sinon, si c'est la deuxième pièce qui est Maaser Sheni, je transfère la Kdusha de Maaser Sheni de la deuxième pièce sur cette pièce, et à ce moment-là, c'est cette pièce qu'il utilisera comme Maaser Sheni, et la deuxième pièce pourra être utilisée pour les autres besoins. Bachachami Momrim disent Hakol Chulin, puisqu'en général, une personne fait attention de ne pas mélanger l'argent de Chulin et l'argent de Maaser Sheni, nous estimons donc que la première pièce de Maaser Sheni a été enlevée de cet endroit, et en fait, ce sont deux nouvelles pièces qui appartiennent au Chulin. Deuxième cas, s'il a déposé dans un endroit deux pièces d'un mané qui appartenaient au Maaser Sheni, ou matzamané, et a retrouvé dans le même endroit qu'une seule pièce d'un mané. Alors, mané munach ou mané mutal divrei Rebi, selon les paroles l'avis de Rebi, disons que la pièce de Maaser Sheni qui reste, la pièce d'un mané qui reste appartient au Maaser Sheni, et nous disons qu'une pièce a disparu de cet endroit, a été enlevée de cet endroit. Bachachamim Omrim disent Hakol Chulin. Puisqu'on fait attention de ne pas mélanger le Maaser Sheni, on fait attention qu'il ne se perde pas, nous estimons donc que les deux pièces ont été enlevées en même temps, et en fait cette pièce est une nouvelle pièce qui appartient au Chulin. Donc nous voyons que selon l'avis des Chachamim, dès qu'il y a un changement, soit si une pièce a été enlevée, soit si une pièce a été ajoutée, nous dirons que toutes les pièces ont été enlevées et ce sont des nouvelles pièces qui sont venus. Alors là aussi, dans l'autre cas, nous aurions dû dire que même si c'est dans le cas où il a désigné trois pigeons, il en trouve deux, nous aurions dû dire que les trois ont quitté le nid et ce sont deux nouveaux pigeons. Et donc nous devrions dire que ces pigeons sont mouktés. Afilu tema rabbanan. Toujours pourrais-je te dire que cette Mishnah va selon l'avis de Chachamim. Haït marala. Voici ce qu'a été dit à propos de cette Mishnah. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar d'Amre Tarvayu disent tous les deux que Shani Gozalot Ho'il Vasuin Ledadot. En fait, à propos des pigeons, c'est différent. Ce n'est pas comme l'argent qui ne se promène pas tout seul. Il faut que ce soit une personne qui vienne enlever cet argent de là-bas. Donc nous estimons qu'il a eu certaines intentions. Par exemple, de ne pas mélanger le Choulin et le Maaser Sheni. Il fait attention à ça. Par contre, les pigeons peuvent se promener tout seuls. Ils peuvent se sautiller tout seuls. Et donc, on peut très bien estimer que c'est un pigeon qui est parti et les deux autres sont restés. On n'a pas besoin nous ne sommes pas obligés de dire, on n'a même pas besoin de craindre que ce sont tous les pigeons qui sont partis et les deux autres, et de nouveau, qui sont arrivés. La Gemara demande, « Vela malil shenouya ala » Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de répondre à cette question ?« Sha'ani gozalot ho'il vasuinil adot » Que les pigeons, à propos des pigeons, c'est différent parce qu'ils ont l'habitude de sautiller et donc il est très possible qu'un pigeon parte. Vait marala de'ahi, voici ce qui a été dit à propos de cette breta de Maaser Sheni, de Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer, qu'en fait il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Chad amar, un des deux avis dit, Bishne kisin machloket, la discussion entre Rabbi et Rabbanan parle dans un cas où il y a deux sacs ou bourses qui contiennent chacune une des pièces, donc au départ. Et donc c'est dans ce cas-là que les Chachamim disent que même s'il y a eu un changement à propos d'une des pièces, rien n'engage qu'il y a eu un changement à propos de la deuxième pièce. Aval bekis echad, mais si les deux pièces étaient dans le même sac, divrei akol chulin, même Rabbi est d'accord que les deux pièces retrouvées dans ce sac sont chulin, parce que nous savons qu'une personne fait attention de ne pas mélanger le chulin et le maaser sheni. Et le deuxième avis dit, Bekis Echad Machloket, la discussion entre Chachamim et Rabbi se situe dans un cas où les deux pièces étaient dans le même sac, où là Rabbi pense quand même qu'il y a une possibilité qu'une personne ait pris une seule pièce. Aval Bishne Kisim, dans le cas où il y avait deux sacs, donc finalement rien n'a. Le premier sac n'a rien à voir avec le deuxième. Divrei Akol, Mane Munach, Mane Mutal, tout le monde sera d'accord, même Rabbanan, que nous disons que. Même si un des deux sacs a disparu, nous disons que le premier sac est resté, et donc Maaser Sheni, et c'est le deuxième sac qui a disparu. Alors, Bishlema, le Mandama, Bishne Kisin Machloket, on comprend bien, selon l'avis qui dit que la discussion était dans le cas où il y avait deux sacs, donc même dans le cas où il y a deux sacs, quand même, un sac engage à l'autre, Haïnu Distaj, le Shanouyaha, c'est pourquoi nous avons besoin de répondre ici à la question que nous avions eue. Shani Gozalot Oil Vasuin les Adot. À propos des pigeons, c'est différent parce qu'ils ont l'habitude de sautiller. Donc, c'est pourquoi nous pouvons estimer qu'un est parti et les autres sont restés. Par contre, à propos de l'argent de Maaser Sheni, nous disons que s'il y a une personne qui est venue prendre l'argent de Maaser Sheni, donc il a tout pris. Et là, les mandé à Marbe qui sera de Machloket. Par contre, selon l'avis qui dit que la discussion entre Rabbi et Rabbanan se situe dans un cas où il y a un seul sac, Aval Bishne Kisim Divra Akol, Mane Munach, Mane Mutal. Dans le cas où il y a deux sacs, tout le monde est d'accord que nous disons ce qui s'est passé à propos d'un sac n'engage pas au deuxième. Nous disons que donc, si un des sacs a disparu, nous disons que celui qui reste est Maaser Sheni et c'est le deuxième qui est Maaser Sheni qui a disparu. Nous n'estimons pas donc qu'une personne ait pris les deux sacs. Alors, Hashta, la Malé le Shinouya Allah. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de répondre à propos de cette question, Ha Amar Bishne Kisin Opligé, parce que voici que tu dis qu'à propos de deux sacs, il n'y a pas de discussion. Là, chacun des pigeons est considéré comme un sac à part. Donc, pourquoi est-ce que nous avons besoin de répondre que les pigeons sont différents, ils peuvent sautiller, même s'ils ne peuvent pas sautiller, même si nous disons qu'une personne est venue les prendre, par exemple, ou venue prendre un pigeon, nous dirons que c'est un pigeon qui a été pris et les deux autres sont restés. Amar. La Gemara répond, Amar a dit, Rabashi, Hacha begozalot mekusharim. Ici, il s'agit de pigeonneaux qui étaient attachés entre eux, vekisil mekusharim. Et aussi, quand nous disons dans la Braïta que la discussion se situe quand il y a un seul sac, en fait, il s'agit de deux sacs qui sont attachés, donc considérés comme un. C'est à ce moment-là que nous disons qu'il y a une machloquette entre Rabbi et Rabbanan. Donc, il ressortirait selon cet avis, dans le cas d'un seul sac où il y a deux pièces dedans, il est évident que si une personne est venue, elle a pris les deux pièces à la fois, et tout le monde est d'accord que l'argent trouvé ici est Khoulin. C'est une nouvelle pièce qui est arrivée. Dans le cas où il y a deux sacs qui sont attachés, là nous avons une discussion entre Rebbi et Rabbanan. Selon Rebbi, nous disons qu'il est possible qu'une personne ait pris un seul des sacs, comme la Gemara expliquera. Par contre, selon l'avis de Rabbanan, ils disent que même dans ce cas-là, une personne aura pris les deux sacs, et donc là, le sac retrouvé maintenant contient de l'argent Khoulin. Dans le cas où il y a deux sacs qui sont séparés, voilà, tout le monde est d'accord que nous disons qu'un sac un sac de Maaser Sheni a été pris, le deuxième est resté sur place. Par contre, dans le cas de pigeons attachés, bien que là, les Chachamim devraient dire qu'une personne aurait pris tous les pigeons ensemble, Gozalot menatre adadé. Les pigeonneaux peuvent se détacher puisqu'ils bougent, ils sautillent, donc ils peuvent très bien arriver qu'ils se soient détachés tout seuls. Donc nous dirons, comme ce que la Gemara dit plus haut, que puisqu'ils peuvent sautiller, nous dirons qu'un des pigeons a quitté le nid, les deux autres sont restés sur place. Par contre, Kissin, des sacs l'omenatra dadé, ils ne se détachent pas tout seuls, donc il n'y a aucune raison de dire qu'un des sacs a été pris sans le deuxième. Rebbi Amarlecha. Par contre, Rebbi, qui discute avec le Chachamim, il dit et pense que dans le cas de deux sacs attachés, il est possible qu'une personne ait pris un seul des sacs, parce que Zim Kissin Nami, même à propos des sacs, Zimnin de Mitakel, nous passons à Daf Yudalef Amudalef, qui trahit, il y a très bien une possibilité que le nœud se soit détaché pour une raison ou une autre, et donc la personne qui est venue a trouvé un seul des les sacs détachés, et c'est pourquoi il est possible qu'il ait pris un seul des sacs. Donc là, nous avons expliqué une des versions de la machloket entre Rebbi et Rabbanan. Par contre, selon la deuxième version, soit si nous avons les deux pièces dans un seul sac, soit si nous avons les deux pièces dans deux sacs qui sont attachés, voilà, soit Rebbi, soit Rabbanan sont d'accord que nous disons que la personne qui est venue a pris les deux pièces en même temps, soit dans un sac, soit dans les deux sacs. Par contre, dans le cas où il y a deux sacs qui sont séparés, alors là, les rabbanan disent toujours que nous disons que la personne qui a pris cet argent a pris les deux sacs, donc l'argent que nous trouvons ici est entièrement Khoulin. Par contre, selon l'avis de Rebbi, nous disons que un seul des sacs a été enlevé, le deuxième reste Maaser Sheni. À propos des oiseaux ou des pigeonneaux, soit s'ils sont attachés, soit s'ils sont détachés, nous dirons toujours qu'un est pu partir tout seul et les autres sont restés sur place. Nous avons fini le shiur de Betzada Fiut.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.